La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Pour notre méditation de ce jour, je vous invite à regarder et à lire avec moi un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, les versets 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans ce texte, saint Paul nous parle donc de cet amour qui accomplit la loi. Deux fois, ce thème revient dans ce passage, au verset 8 et au verset 10. L'amour du prochain, plus précisément. Alors, saint Augustin, on connaît tous cette citation de saint Augustin, a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Souvent, cette citation a été déformée et détournée de son sens originel, comme si saint Augustin nous disait que finalement, nous pouvions faire ce que nous voulons. Or, Augustin parle des intentions qui doivent primer dans notre action et dans notre éthique, dans notre comportement. Ici, de même, saint Paul nous parle de l'amour à l'égard du prochain. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, verset 8. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alors, l'amour, ce thème de l'amour du prochain n'est pas un sujet qui serait un peu le dada de saint Paul, un thème spécifique à lui. Jésus l'a aussi enseigné dans les évangiles à plusieurs reprises. Et dans le judaïsme et la Torah, plus précisément, eh bien, on prescrivait l'amour du prochain. On trouve un texte dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, qui nous dit ceci, « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Alors même si ce texte, à l'origine, dans le Lévitique, s'adressait en priorité aux fils d'Israël, Jésus a étendu ce texte-là à l'ensemble des hommes et des femmes. Alors ce sont les commandements de la deuxième table de la loi que saint Paul prend en exemple pour définir ce que l'amour chrétien accomplit. Au verset 9, Paul cite les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas » et tout ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et en citant ces commandements de la deuxième table de la loi, c'est-à-dire des devoirs du chrétien à l'égard de son prochain, il conclut au verset 10 que celui qui accomplit finalement cela, eh bien, vit vraiment cet amour qu'il veut développer dans ce passage-là. Et il conclut au verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Grégoire le Grand, dans sa règle pastorale, a dit ceci, « Car la charité, c'est-à-dire l'amour du Christ, l'amour que les chrétiens portent au nom du Christ, cet amour-là s'élance merveilleusement vers les hauteurs quand elle se laisse, cette charité, miséricordieusement attirée en bas vers les misères du prochain. Et plus elle descend avec amour vers les faiblesses, plus elle reprend vers force son élan vers les sommets. Autrement dit, l'amour du prochain est cet amour qui, finalement, est uni à l'amour que nous portons à Dieu. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui le dit, hein, il n'y a pas de plus grand commandement que cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est là le résumé finalement de la loi et des prophètes. Dans le texte que nous avons lu, dans cet épître aux Romains, Paul a écrit aux chrétiens de Rome en leur disant que finalement l'amour est défini comme se vivant au plus près de la réalité et pour chaque être humain rencontré. Et ce n'est qu'ainsi que le chrétien accomplit dans sa vie ce que recommande Dieu dans la loi de Moïse. Paul dit que le disciple du Christ accomplit la loi juive par le commandement de l'amour. Et c'était certainement pour Paul un point polémique avec les Juifs qui lui reprochaient son antinomisme, c'est-à-dire que Paul régulièrement devait essuyer ses propos de ses détracteurs qui lui reprochaient dans son évangélisation avec les non-juifs, de ne pas leur donner réellement la règle commune que les juifs avaient de suivre les commandements mosaïques. Et donc Paul leur dit, mais l'amour du Christ, finalement, s'il est pratiqué selon l'enseignement du Christ, est un amour qui accomplit cette loi. Et donc il n'y a pas pour Paul d'opposition ou d'incompatibilité entre ce qu'enseigne l'évangile sur l'amour et la révélation faite à Moïse, et plus généralement, en définitive, avec tout l'Ancien Testament. Alors, dès le début du christianisme, les chrétiens et les juifs ne se sont pas compris sur le statut à accorder à la loi, ce qui va d'ailleurs susciter des tensions, des incompréhensions entre eux, les juifs reprochant aux chrétiens de ne pas respecter, voire même de transgresser la loi de Moïse. Ici, saint Paul nous fait une révélation fracassante au verset 8. « Celui qui aime les autres, eh bien, il accomplit toute la loi. » Et plus loin, au verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » L'amour tel que Jésus et les évangiles nous l'enseignent, oui, accomplit la loi. Et cet amour résume en définitive tout ce que les prophètes, Moïse et l'ensemble finalement des textes religieux ont pu écrire. Ce que ce texte de saint Paul nous dit, c'est que l'éthique chrétienne est en parfaite cohésion avec la volonté de Dieu exprimée dans tout le système religieux de la loi juive, pour peu que cette éthique, cet amour, s'adosse à Christ et à son enseignement. Mais attention, si le principe de l'amour donné dans ce texte paraît simple, il est d'autant plus exigeant et complexe à vivre. En effet, cet amour qui accomplit la loi n'est pas l'amour sentimental, vous savez, qu'on nous présente un peu partout dans notre culture moderne, qu'on voit dans ces feuilletons romantiques, ces séries romantiques. C'est un amour, au contraire, très concret, qui se vit non pas comme simplement un sentiment, une émotion passagère, une envie, mais vite refroidie par la réalité et la confrontation avec cette réalité. Non, c'est un amour très concret qui se vit dans la vérité, qui se vit dans la réalité des combats, si durs et si cruels parfois auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Cet amour, il est fondé sur le Christ, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis de son amour. Et ce sont les versets 11 et 14 de notre texte qui développent en quoi consiste plus précisément cet amour. Dans ces versets 11-14, cet amour consiste à ne pas s'endormir. Paul nous parle de rester éveillé. Deux images dans ces versets 11 et 14, d'abord celle du réveil opposé au sommeil. Et la deuxième image, celle de la lumière du jour opposée aux ténèbres de la nuit. La nuit est avancée, au verset 12, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Donc une opposition entre la nuit, les ténèbres, et le jour et la lumière. Une opposition aussi entre l'endormissement et le réveil, c'est-à-dire d'avoir pleine conscience de ce que nous faisons. C'est l'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil, pardon. Donc ces métaphores du sommeil ou du réveil, de la lumière et des ténèbres, étaient bien connues du judaïsme. Et d'ailleurs, Jésus lui-même exhorte ses disciples à veiller. Rappelons-nous la scène de Gethsémané où Jésus, au moment juste avant d'être trahi par Judas et d'être donc amené prisonnier auprès du Sanhédrin, souffre dans la prière dans ce jardin et voulant se faire accompagner par ses disciples pour qu'ils prient avec lui, il les trouve endormis par trois fois au point de dire « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi ». Et il leur dit cette parole terrible, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Saint Paul, ailleurs, reprend cette image, cette métaphore de l'endormissement. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dans notre texte, le réveil ou l'éveil spirituel est le fruit d'un discernement spirituel. Au verset 11, effectivement, Paul dit « Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. » Effectivement, l'éveil spirituel permet de voir, c'est-à-dire de discerner les enjeux spirituels du temps présent. Les disciples du Christ savent. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Ils savent quoi ? Ils savent qu'ils vivent dans un monde où se joue un conflit spirituel qui plonge l'humanité dans les ténèbres. Et qui ne voit pas briller à cause de cet endormissement et de ces ténèbres, l'humanité ne voit pas briller, nos contemporains, la majeure partie, ne voit pas briller la lumière de la vérité de l'Évangile. Mais les disciples du Seigneur, eux, sont appelés à voir, à se réveiller, à discerner. Ils sont invités à se réveiller du sommeil spirituel et à entrer dans un état de vigilance permanente pour se préparer à la rencontre de leur maître, du Seigneur, au verset 12, « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Saint Paul lui-même a été un chrétien éveillé, et plus que ça d'ailleurs, il a aussi été un éveilleur, c'est-à-dire quelqu'un qui réveille ses co-religionnaires. Saint Paul était très attentif dans sa vie personnelle à ne pas être l'objet de scandales. Et il faisait tout son possible par son zèle et son activité débordante pour inciter les membres des communautés qu'il visitait et dont il avait la charge à être comme lui, à faire de même. Nous le voyons dire dans les Actes des Apôtres, alors qu'il se dirige vers Jérusalem et qu'on sait, la suite du récit nous le décrira comme allant prisonnier à Rome, il convoque là les chrétiens, les responsables d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, et il leur dit ceci, « Vous savez de quelle manière je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur avec humilité. Prenez donc garde. » Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Et il termine son exhortation ainsi, veillez donc, toujours cette notion donc de discernement, de veille. Veillez donc, vous savez en quel temps nous sommes. Alors ce discernement qui consiste à avoir cette connaissance des temps et des signes évidents, ce discernement ne consiste pas à décrypter l'actualité pour tenter d'y voir des signes qui correspondraient à des textes bibliques. Mais cette connaissance, ce discernement implique l'exercice d'un discernement spirituel, d'un éveil spirituel qui présuppose la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement du cœur qui va par la suite déterminer, orienter notre comportement dans le quotidien de nos occupations. En effet, l'amour porté au Christ par ses disciples leur fait désirer de le suivre en abandonnant ce qui leur semblait jusque-là si important. Et c'est ce que nous disent les versets 12 à 14. « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des querelles et des jalousies, etc. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » On voit dans ce passage que ce revêtement, il est à l'égard des armes de lumière et aussi à l'égard du Christ. Revêtez-vous des armes de la lumière, et plus loin, au verset 14, à la fin du verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce revêtir, ce verbe à l'impératif dans le texte, ne décrit pas une action extérieure à l'homme qui n'aurait d'autre but que de changer d'apparence par le simple fait de changer de vêtements, par exemple, comme on mettrait un masque ou un déguisement. Il s'agit ici d'un revêtement intérieur. On comprend bien que revêtir le Christ ou revêtir les armes de la lumière, la simple image des armes de la lumière ou d'une personne, en l'occurrence le Christ, ne peut pas être donc un revêtement extérieur, mais intérieur. Et ce revêtement, enfin en tout cas l'action de se revêtir ainsi, aura pour conséquence positive une réorientation de la pensée et donc un changement de vie. Il s'agit ici de revêtir le Christ. Ce revêtement christique ou spirituel décrit un changement de vie intérieure, une réorientation de la pensée. Désormais, celui qui est revêtu du Christ pense, parle et agit comme son maître. Il marche avec lui, c'est-à-dire en son nom. Il le représente. Il marche aussi par lui, par le Christ, c'est-à-dire avec sa force. Il est habité de sa présence. Il marche aussi en lui, c'est-à-dire en accord avec sa volonté, en conformité avec la nature du Fils de Dieu, aimé du Père. Autrement dit, les enfants de Dieu qui ont revêtu le Christ se savent comme le Christ aimé du Père. Et pour toutes ces raisons, l'amour qu'ils ressentent les conduit à aimer comme le Christ a aimé, et ainsi, comme le dit saint Paul dans ce texte, l'amour accomplit parfaitement la loi de Dieu. L'amour du Christ consiste donc à se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à s'attacher à Jésus, à lui laisser la conduite de sa vie, à se laisser inspirer de lui, à s'abandonner à lui. Cet amour, donc, qui est un abandon conscient et responsable, va nous conduire à aimer de sa tendresse infinie. Et à l'exemple de Jésus, nous demeurons alors dans son amour. Comme l'a dit Jésus, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père. » Et je demeure dans son amour. Encore une fois, on voit là le lien qu'il y a entre l'obéissance au commandement et l'amour. Alors, saint Augustin nous a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Oui, c'est effectivement le cas, car quand nous aimons de cet amour qui accomplit la loi de Dieu, c'est-à-dire de l'amour du Christ, nous aimons notre prochain de l'amour que le Fils et le Père se portent mutuellement. Cet amour qui nous entraîne dans une communion et une fidélité à toute épreuve. Vous savez que Jésus a dit, quand les pharisiens sont venus le trouver pour polémiquer avec lui, pour débattre avec lui sur la question de la possibilité du divorce, Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Eh bien, il en est de même de notre compréhension de l'amour. Que l'homme ne sépare pas l'amour de la vérité, qu'il ne sépare pas l'amour de la communion et de la fidélité à Dieu. Oui, aime, aime, et si tu aimes comme Christ t'a aimé, le premier, alors tu peux faire ce que tu veux, parce que ta volonté sera en accord avec celle de Dieu.
Le poids de plus sur l'amour triomphe.